Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans Lectures en liberté, nous allons continuer ce soir le roman de Franck Buisse, Grossir le ciel. Gus déposa le fagot devant la cuisinière sans rallumer le feu. Il se vêtit le plus chaudement possible et fit le tour des bâtiments de sa ferme, juste pour voir si tout allait bien, si la poudreuse fraîchement dégringolée n'avait pas causé de dégâts. Voyant qu'il n'y avait ni dommage à déplorer, ni inquiétude à avoir, il se rendit dans la remise près de la grange, afin de rassembler le matériel nécessaire pour réparer la clôture endommagée du champ des doges. Il se dit que ce serait toujours ça de fait, et qu'un peu d'exercice ne lui ferait pas de mal, même avec la météo peu favorable. La clôture à rafistoler se situait à quelques centaines de mètres des bâtiments. Gus attela une benne rouillée au tracteur, et chargea une masse, un marteau, des tenailles, une baramine, une boîte de cavalier, quelques piquets épointés et brûlés et un rouleau de barbelés au cas où les dégâts seraient plus importants que ce qu'il avait évalué. Une fois sur place, il décapa la couche de neige, puis arracha deux piquets pourris. Il fit ensuite des trous à la baramine avant de présenter deux piquets neufs qu'il enfonça à grands coups de masse, claquant comme des détonations d'armes à feu, ricochant de loin en loin dans le brouillard. Après quoi, il démêla le fil de fer sans le remplacer, puis le rajusta en rang équidistant qu'il fixa à l'aide de cavaliers. Il avait toujours eu l'habitude de bien faire les choses, de prendre son temps, pour que le résultat soit à la hauteur de son ambition. Parce que la contrainte des efforts supplémentaires exigés était bien moindre que l'insatisfaction d'un travail bâclé. Il en avait fait l'expérience plus d'une fois quand il était bien plus jeune et qu'il ne mesurait pas alors les choses et leur impact avec la même toise qu'aujourd'hui. De retour à la ferme, Giel et entra faire cuire du riz et griller deux côtelettes d'un des agneaux qu'il avait acheté à Abel l'an passé. C'était fameux, mais il ne put terminer son repas. La tristesse tomba sur lui sans prévenir. Il était abattu comme quelqu'un qui réalise avoir perdu quelque chose avec quoi il vivait sans y prêter attention. Quelque chose qui devient plus important quand on l'a perdu que quand on l'a sous le nez tous les jours, car on finit par ne plus y faire attention. Il pensa alors à son chien qu'il avait baptisé Mars, parce qu'il l'avait trouvé tout petiot, tremblant et affamé, un matin de mars, où il était parti relever les cordes posées la veille dans la rivière qui saigne la forêt. Des chiens, Gus en avait eu beaucoup avant celui-là. Et en perdre lui était arrivé autant de fois, mais ce bâtard-là, sans en comprendre la raison, il y tenait plus qu'à tous les autres. En cet instant, il réalisait que cette bête allait sacrément lui manquer quand elle disparaîtrait, qu'elle ne serait plus là pour lui lécher les mains, se frotter à lui en remuant la queue de contentement et aussi pour conduire les vaches au pré. L'animal lui donnait de l'importance, une sorte de signifiance de sa propre existence, qui minimisait sa solitude en quelque sorte. Les chiens, c'est bien connu, ça dure moins que les humains. Gus aurait donné un peu de son temps à lui pour prolonger celui de Mars s'il avait eu le choix. Enfin, c'était rien que des calculs, tout ça, pas la vie, se dit Gus, en retrouvant un peu de sérénité. Il donna le reste des côtelettes à Mars, puis déposa son assiette dans l'évier avec ses couverts et son verre. Ensuite, il essuya la lame de son couteau sur une jambe de pantalon, la replia et enfonça le couteau dans sa poche. Il se fit réchauffer du café dans une casserole, patientant devant le fourneau pour ne pas qu'il bouille. La mémé disait toujours qu'un café bouillu, c'était un café foutu, le genre de leçon qui ne s'oublie pas. Gus pensait que c'était décidément une drôle de journée, avec tous ses souvenirs qui s'amenaient comme des vols de corneilles sortis du brouillard. Des souvenirs dont on ne sait jamais où ils mènent, ni même si ça fait du bien de les avoir, mais qui ressurgissent et s'imposent sans crier gare. Gus s'assit pour siroter son café, puis s'assoupit, la tête sur ses mains disposées à plat sur la table. Une fois repu, Mars s'approcha de son maître en minaudant, avant de s'allonger et de visser son museau au soulier gauche de Gus. Dehors, le ciel était descendu d'un cran supplémentaire et le vent du nord ne semblait pas prêt à changer de camp, ni à abdiquer. Quand Gus émergea de sa sieste, la cendre de la cigarette qu'il avait allumée avant de fermer les yeux reposait dans un cendrier en coquillage, pareil à une merde de moineaux desséchés. À chaque fois, c'était la même chose. Dormir après avoir mangé le mettait à l'envers. Plus envie de travailler. Il en aurait été incapable. Il repensa aux griffes qu'il avait vues au matin sous les chênes en bordure du champ des doges. Il suffirait que quelqu'un ait la même idée que lui et se trouve dans la plantation de pommiers tout proche, et il s'enverrait alors les oiseaux dès le premier coup de fusil. « Ce bon vieil Abel, » pensa Gus. Il attrapa son calibre 16 à canon juxtaposé, suspendu à une poutre, et enfonça deux boîtes de cartouches numéro 6 dans les poches de sa veste. Il enferma Mars dans la remise, pour qu'il n'aille pas faire fuir les grives, étant donné qu'il ne pouvait jamais se tenir tranquille, toujours à japper pour un oui ou pour un non. Il remonta le col de son veston et se mit en route en traversant au plus court, par la terre des Cardons. Les oies le suivirent un moment, tendant le cou comme pour gober la neige qui tombait encore et puis s'en retournèrent à l'abri en se dandinant avec leur gros derrière qui touchait presque par terre. Gus longea la pêcherie des rossignols sur une vingtaine de mètres. Il y avait eu des rossignols dans le temps, à ce qu'il paraissait. Il devait y avoir sacrément longtemps parce que Gus n'en avait jamais entendu chanter. Les seuls oiseaux qui piaffaient en pagaille dans les bouquets de bambous, c'étaient des étourneaux et aussi quelques merles aux allures de petits tétras amoureux. L'eau était gelée à la surface de la pêcherie. Gus remarqua des traces de pattes de poules d'eau sur la glace recouverte de neige. La marche et le froid l'avaient maintenant totalement réveillé. Arrivé en bordure du champ des doges, il se posta sous un grand chêne, brisa quelques branches qui auraient pu le gêner pour se déplacer et viser et attendit. La crosse coincée sous un biceps, les canons posés sur l'avant du même bras et les mains glissées dans les poches de sa veste, triturant les cartouches pour se désengourdir. Le ciel était toujours aussi bas. Il ne serait sans doute pas facile de voir les grives se pointer, mais l'avantage, c'était qu'elle aussi aurait des difficultés à repérer Gus. 50-50 de ce point de vue-là, après tout, c'était lui qui tenait le fusil. Quelques minutes plus tard, Gus fut enfin récompensé de sa patience en entendant le bruit caractéristique que font les grives en volant. Il dirigea son regard vers le ciel, mais ne vit rien. Jusqu'à ce qu'un vol d'une vingtaine d'oiseaux s'abatte sur les arbres, comme émergeant d'un nuage de farine. Ils s'assurèrent que rien ne clochait, se posèrent sur les cimes, attendant de se laisser aller vers le sol pour chercher à manger là où la couche de neige était la moins épaisse. Il n'y avait plus à hésiter. Gus leva délicatement son arme et aligna un volatile de profil, de façon à ce que même seulement blessé, avec une seule aile valide, il ne manque pas de tomber. Gus n'eut pas le temps de tirer, car, à ce moment précis, un coup de feu retentit, en provenance de la plantation d'Abel. Gus sursauta. Il ne s'était pas trompé, Abel avait eu la même idée et dégainé le premier. Les grives s'envolèrent et quelques secondes plus tard, d'autres arrivèrent, délogés de la plantation. Il n'allait pas laisser passer sa chance une deuxième fois. Il visa un nouvel oiseau. Il était prêt à appuyer sur la détente, mais n'eut pas le temps de la presser ce coup-là non plus. Des cris aigus se mirent à crever le vide. Des cris qui venaient manifestement de l'endroit où avaient été tirés les coups de fusil et qui n'avaient rien à voir avec le chant d'une grive. Gus ne bougeait pas. D'autres cris montèrent, évoluant en grognements d'animal. Puis il y eut un troisième coup de feu et ensuite plus rien. Gus distinguait à peine la première rangée de pommiers. Il attendit sans rien pouvoir faire de plus, comme s'il espérait que quelque chose émerge du brouillard. Quelque chose qui serait sauvé. Mais rien ne vint à lui, sinon le silence. Aucune grive ne se présenta plus.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après cette nouvelle pause musicale, nous reprenons donc la lecture du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. De toute façon, Gus n'aurait pas pu tirer. Il demeura pourtant encore un long moment sous les arbres. Et quand il se décida enfin à bouger, il faillit se casser la figure, tellement ses muscles étaient engourdis. La meilleure chose à faire, la plus raisonnable, aurait été de rentrer pour allumer un bon feu, se réchauffer et oublier ce qu'il avait entendu. Essayer. Au lieu de ça, Gus traversa le champ, puis la plantation, son fusil chargé à la main. En arrivant à la ferme d'Abel, il constata qu'il n'y avait apparemment personne dans le coin ni aux abords de la plantation. Il s'approcha silencieusement jusqu'à la grange et la longea par l'arrière, marchant courbé dans la neige virginale, économisant son poids afin de limiter les craquements de ses pas comme s'il marchait pieds nus sur des braises, sélectionnant l'endroit qu'il jugeait le plus propice, celui qui le porterait au suivant avec le minimum de surprise. Il marchait ainsi, sans savoir ce qu'il cherchait. Tel un petit être apeuré aux ordres de cette même curiosité qui menait les humains contre les murailles hallucinées du levant, le même désir de savoir et de prendre les trésors promis sans vouloir en payer le prix. Longtemps après, Gus se dirait qu'il n'aurait jamais dû baisser les yeux. Mais on fait parfois des choses qui sont plus fortes que nous quand l'instinct seul dicte sa loi. Il y avait cette grosse tache dans la neige, comme du sang. Les flocons qui tombaient de nouveau essayaient bien de l'effacer en la martelant inlassablement, mais ils n'y parvenaient pas encore. Gus était immobile, incapable de comprendre. Il regardait la neige qui se colorait de rouge au fur et à mesure de sa chute. Il fit demi-tour, sans chercher d'autre explication que celle que la peur le poussait à extraire de son imagination. Il avait l'impression que ses pas faisaient autant de boucan que la grosse caisse de la fanfare qui jouait pour la fête foraine au mois d'août. Il oublia alors toutes les précautions prises jusque-là et se mit à courir en se retournant fréquemment pour s'assurer que personne ne le suivait. Quand il arriva enfin chez lui, il se barricada dans la maison et s'assit à même le sol en tremblant, le dos calé contre une cloison comme un animal pris dans une nasse. Ce fut Mars qui fit sortir Gus de sa torpeur. Le chien n'arrêtait pas d'aboyer. Depuis qu'il était enfermé dans la remise, il commençait visiblement à trouver le temps long. Avec l'histoire des grives et des coups de feu qui lui trottaient dans la tête, Gus n'avait pas bougé d'un pouce, échafaudant 1000 scénarios pour finir par ne retenir que celui d'un drame dont il avait été l'involontaire témoin. Les cris mêlés aux détonations enflaient sous son crâne, comme des colloïdes d'argile s'agglutinant sur d'autres particules, fabriquant une pâte grossissant inexorablement. Et cette pâte était sans nul doute faite de chair et de sang, homme ou femme, un cadavre sans visage et sans contour, recouvert de givre. Mobilisant toutes les formes de volonté qu'abritait son corps, Gus se releva en prenant appui sur une chaise. La neige fondue sous ses souliers formait des flaques boueuses qui témoignaient de la chose vécue quelques heures auparavant sans possibilité de s'en absoudre. Tel un vieillard, il se déplaça péniblement jusqu'à la porte donnant sur la cour. Le soleil perçait le brouillard par endroits, en brèche divine. Il était temps de faire sortir Mars pour qu'il se dégourdisse les pattes. Gus ouvrit la porte de la remise, et aussitôt le chien déboula pour se remettre à tourner autour de son maître en jappant, oubliant que la main du libérateur était également celle du geôlier. Gus n'était toujours pas au mieux. La neige autour de lui, il la voyait rouge, rouge sang. C'était trop bête, ces sales idées qui continuaient de galoper sous son crâne. Il décida de se ressaisir en se disant qu'il faisait fausse route et que se concentrer sur le travail serait le meilleur remède pour contrer ce mal sournois. Il alla soigner ses bêtes, espérant ainsi oublier les cris entendus, les coups de feu et tout le reste. Il dut vite se rendre à l'évidence que cela n'avait rien de facile, parce qu'il n'arrêtait pas de penser à Abel, le seul type avec qui il lui arrivait de discuter. Que s'était-il passé chez Abel ? Gus avait fait la connaissance d'Abel après la disparition de sa mère. Avant, les deux familles ne s'étaient jamais fréquentées, sans que Gus en connût la raison. Abel était bien plus vieux que lui, même si ça ne se voyait pas vraiment, étant donné que le temps s'était aussi déjà bien amusé avec Gus. Abel vivait seul également. À 70 ans passés, il était encore vigoureux pour son âge. Le travail d'une vie lui avait fabriqué des muscles qu'on voyait encore sous la peau détendue de ses avant-bras barrés de veines grosses comme de la ficelle de lieuse. Ce qu'on retenait surtout en le voyant, c'était ce regard qui vous accrochait et au travers duquel on pouvait deviner une histoire qui avait dû être faite de plus de creux que de bosses. Ses yeux étaient délavés, rincés par la vie, un peu comme le ciel quand il n'a pas vraiment de couleur définie. La famille d'Abel était installée au Doge depuis plus longtemps encore que celle de Gus, autant dire une éternité consacrée à se casser le dos sur les mêmes arpents. À lui non plus, la vie n'avait pas fait de cadeau. Le père d'Abel était mort en 1942, fusillé par les Boches contre un chêne qui avait longtemps porté son nom, jusqu'à ce qu'on l'abatte pour en faire de belles planches. Sa mère avait rabâché son chagrin jusqu'à en devenir folle. À croire qu'une famille au complet, c'est un projet hors d'atteinte dans ce coin-là du paradis. La solitude est un point commun à beaucoup d'hommes et de femmes, comme si la mort s'invitait à tous les mariages. Chacun sait que le ménage à trois ne fonctionne jamais et que c'est l'humain qui finit toujours par être raboté. Abel et le père de Gus auraient presque pu être frères de malheur, mais ils ne s'étaient jamais entendus. Sûrement à cause d'un secret enterré que tout le monde avait oublié, mais qu'ils avaient certainement nourri pour rester fidèles à leur sang. Têtu, les gens du cru. Et ce point, ça avait été la mort de la mère de Gus, qui avait en quelque sorte sonné le glas des secrets et des rancœurs. Ce qui faisait la différence entre les deux hommes, c'était qu'Abel avait eu une femme décédée depuis longtemps, bien avant la naissance de Gus. Abel n'en parlait jamais. Mais Gus avait appris incidemment par sa grand-mère qu'elle avait eu le genre d'accident que seules les femmes peuvent avoir sans comprendre ce que cela signifiait exactement à l'époque, ni ressentir le besoin d'en savoir davantage. Abel ne s'était jamais remarié. En avait-il eu l'occasion ? Quand on a la chance de trouver une fille qui veut rester à la ferme, c'est déjà rare. Alors pour ce qui est d'en trouver une deuxième, c'est difficile à envisager, à plus forte raison de nos jours. C'était tout ce que Gus savait d'Abel et de sa vie d'avant. Aucun des deux hommes n'étaient bien causants. Ils avaient pris l'habitude de s'entraider lors de certains travaux, construisant au fil des saisons ce qui devait ressembler à une amitié distante qui n'aurait jamais su dire son nom. Une semaine après la mort de la mère de Gus, Abel avait rappliqué chez lui au volant de son vieux pick-up Ford, afin qu'il lui donne un coup de main urgent. Une génisse, dont c'était le premier vélage. Abel était entré dans la maison sans sommation, en expliquant que la matrice était sortie en même temps que le veau et qu'il ne pouvait pas la remettre tout seul dans le ventre de sa vache. Il allait la perdre si on ne l'aidait pas. Ça avait surpris Gus, qui était en train de couper des tranches de jambon cru pour son repas du soir. Il faut croire que c'était le genre de situation qui pouvait les amener à les extraire de leur solitude. Gus n'avait fait ni une ni deux, il avait suivi Abel, pensant que si une telle tuile lui arrivait, il serait bien content d'avoir deux bras supplémentaires pour l'aider. Les deux hommes étaient alors montés à bord du Ford, fonçant bientôt sur le chemin du Braque, menant directement à la ferme d'Abel. Le pick-up brinque-ballait sévèrement parce qu'Abel coupait tous les virages et mordait un peu le fossé à cause de la dérisoire lueur produite par les phares du véhicule. Gus n'en menait pas large. Il n'avait pas l'habitude de la vitesse, ni même de monter à bord de ce type d'engin. Quand ils étaient arrivés à la ferme, Abel était descendu du véhicule et s'était précipité dans l'étable. Gus l'avait suivi aussi vite qu'il le pouvait, son ventre grouillait comme une fosse à purin en plein été. Le veau était né. Maladroitement campé sur ses pattes, il constatait l'évidence du géotropisme et la difficulté de se maintenir en équilibre. La vache était couchée, sa tête lamentablement posée sur la litière usée et ses yeux révulsés semblaient chercher une issue au dehors de la vie. D'expérience, chaque paysan connaît le protocole à suivre en pareille situation. Ils avaient fait lever la vache à grand-peine et disposé la matrice lui dégoulinant de l'arrière-train comme une énorme méduse échouée sur une planche, puis ils l'avaient fait remonter à bout de bras au niveau de la vulve. Ils avaient ensuite enfourné dans les entrailles de la bête tout ce qui n'aurait jamais dû en sortir. Après cette manœuvre, la vache exténuée s'était recouchée aussi sec. Puis les deux hommes s'étaient regardés, visiblement satisfaits. Et Abel avait dit d'un ton solennel « Allez, viens boire un coup, on l'a bien mérité. Il n'y a plus qu'à attendre que tout se remette en place, maintenant. » Cette lecture du roman de Frank Buys, Grossir le ciel, est terminée pour ce soir. Nous reprendrons la suite demain. Elle a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez retrouver cette lecture en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.